Afrique. Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Dans le monde, une fille sur cinq ne termine pas le premier cycle de l'enseignement secondaire et 4 sur 10 ne terminent pas le second. Des millions de filles de 5 à 14 ans consacrent plusieurs heures par jour au travail domestique. Des dizaines de millions sont mariées de force et quittent l'école. Sans éducation et indépendance économique, elles n'ont que peu de chances d'améliorer leur sort. En 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 11 octobre Journée internationale de la fille afin de reconnaître leurs droits et les obstacles auxquels elles sont confrontées. Quels progrès ont été réalisés pour les droits des filles ces quelques 30 dernières années depuis la déclaration de Beijing? Quels sont les défis à relever pour que leurs droits soient respectés, comme le droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à l'épanouissement personnel? Comment éviter une remise en question des acquis concernant ces droits? Ce sont les questions que nous vous avons posées. Nous avons posé ces questions à des expertes et auditeurs sur les réseaux sociaux. Et nous avons en ligne des invités. Nous avons notamment Oumou Kairi Diallo, qui est consultante en genre, directrice du club des filles leaders de Guinée. Oumou, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir, tout le plaisir est pour moi, je suis contente d'être avec vous.
Alors nous avons également en ligne Florine Djorioda Congé, qui est étudiante en médecine à l'université de Yaoundé, chef du département des droits des enfants et des filles de l'association Mar Ngada. Florine, merci beaucoup d'être avec nous également.
Bonsoir, merci.
Alors, donc, on va commencer par écouter peut-être une réflexion d'une Camerounaise, justement, qui est présidente du CAFEN, une association qui s'occupe de la protection des peuples autochtones. C'est Rabiatou Mbama.
Félicitations, madame. Vous allez avoir une petite fille. À l'écoute de ces mots, une patiente a fondu en larmes dans un hôpital de Yaoundé en répétant: non, je voulais un garçon. Mon mari va me finir. Il va prendre une deuxième femme qui lui donnera un successeur. J'étais sidérée face à cette scène et je me suis dit, donc on vit finalement dans une société qui considère la naissance d'une petite fille comme un malheur, quand on respecte plus celle qui accouche d'un garçon, le successeur, l'enfant du village. Ces expressions et comportements ont traumatisé et continuent de traumatiser des femmes au Cameroun et même en Afrique, les amenant à rejeter sans le vouloir vraiment leur petite fille, en les accordant peu d'attention qu'à focaliser sur la recherche d'un garçon. De manière presque automatique, les chefs de famille peu nantis privilégient l'éducation du petit garçon, alors que la petite fille fait juste une future dot. Il n'est pas question de renier nos traditions, notre culture, notre essence en tant qu'Africains, mais d'oser remettre en question celles qui sont injustes et qui ne permettent pas à nos sociétés d'être équitables. Les parents, les autorités traditionnelles ont un rôle important à jouer pour l'épanouissement de la petite fille, en l'acceptant d'abord comme un être à part entière pour qu'elle puisse rêver, croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser.
Voilà, c'était un témoignage touchant de Rabiatou Mbama au Cameroun. Oumou Kairi Diallo, pourriez-vous nous parler, nous présenter à votre association, hein, le club des filles leaders de Guinée, combien êtes-vous et quels sont les profils et que faites-vous exactement, brièvement?
Merci beaucoup. En passant, le témoignage, il est très touchant. Je pense que c'est la réalité de plusieurs communautés africaines et peut-être bien au-delà. Alors, nous sommes le Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui est une organisation composée uniquement de jeunes filles, où nous comptabilisons 520 membres sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous sommes des jeunes filles âgées de 10 à 25 ans et qui ont fait le choix de porter porter la voix des sans-voix, comme on le dit souvent. Donc tout est parti d'une réalité où on était encore au primaire, au collège, et dans notre entourage, on voyait nos amis qui partaient très trop en mariage, d'autres qui étaient mutilés. Bon, la plupart des filles sont mutilées en Guinée. Peut-être celles qui retiennent beaucoup plus l'attention, c'est celles qui vont se retrouver dans des situations un peu plus graves que d'autres. Donc certaines filles vivaient cela, et donc nous nous sommes dit de nous mettre ensemble, et on était très petites en ce moment. On se disait qu'on va défendre les jeunes filles contre les mariages. On va parler à nos parents de les laisser continuer à l'école comme nous avons la chance, ou peut-être pas la chance, c'est notre droit de continuer l'école. Donc c'est comme ça, on a commencé en 2016, on était très petites, on a grandi au fur et à mesure, on a élargi non seulement les membres de l'organisation, mais les axes thématiques aussi sur lesquels nous évoluons. Et ce qui fait qu'on a commencé à toucher et tout ce qui peut être santé sexuelle et reproductive, où on va parler des premières règles, les menstrues, comment le gérer, et la thématique mariage des enfants, la thématique mutilation génitale féminine, la thématique violence sexuelle et aussi l'harcèlement. Donc on a ces axes thématiques-là. Nous, en gros, ce qu'on fait le plus souvent, c'est de sensibiliser, de faire des causeries éducatives, aller aux communautés, parce que la plupart de ces pratiques est liée à certaines croyances sociales.
Absolument. Alors, je suis obligée de vous couper au mot. Essayez d'être très, très bref, s'il vous plaît, dans les réponses, parce qu'on a beaucoup d'éléments à diffuser. Florine Djorioda, congé. Très brièvement aussi, que faites-vous là au département des droits des enfants et des filles dans votre association? Très rapidement, s'il vous plaît.
Alors, merci de nous passer la parole. Ce que nous faisons principalement, c'est la promotion du leadership chez la jeune fille. Alors, pourquoi? Parce que nous pensons qu'il est important, justement, que chacune d'entre elles puisse se rendre compte qu'elle a quelque chose de plus à apporter au monde et qu'elle puisse se donner la chance de dicter, justement, sa voix. Nous allons également, principalement, nous axer sur les séances de motivation, les ateliers de santé, de la reproduction, les formations en entrepreneuriat, et surtout ce qui concerne notre contexte, concernant le fait, par exemple, que l'emploi, c'est pas trop ça chez nous. Donc, on s'axe principalement sur le fait de permettre à chaque femme, justement, chaque jeune fille, d'être capacitante en quelque sorte, pour pouvoir, au moment où elle cherche un moyen de subvenir à ses propres besoins ou même à ceux de sa famille, qu'elle puisse se permettre de le faire seule ou justement dans un cadre où elle est avec d'autres femmes. Donc c'est un peu ça notre optique. Nous sommes une vingtaine de jeunes filles assez dynamiques qui justement ont décidé de changer un peu la dynamique des choses, qui ont décidé de donner une nouvelle voie, de permettre à nos petites sœurs, nos sœurs, de justement suivre la voie qui leur permettra de s'en sortir globalement. En fait, c'est ça que nous faisons.
Merci beaucoup, Florine. Écoutons à présent Sarah Ntamboué, elle est congolaise. Elle est de Goma, dans l'est de la RDC. C'est la coordonnatrice de Change Your World.
La situation de la jeune fille dans notre pays, surtout dans la région des Grands Lacs, et même en Afrique et même dans le monde, elle continue à être très précaire par rapport à ces cycles de guerres que nous voyons partout dans le monde, et particulièrement tous ces massacres à l'est de la RDC, qui ramènent encore une fois une fille à ne pas seulement être ménagère à un moment de toute cette situation de pauvreté dans notre région, mais aussi ces conflits qui nous arrachent le parents, mais encore une fois la jeune fille sur une ligne de chef de ménage. Nous avons une fille de 12 ans, 13 ans, appelée à nourrir et à protéger toute une famille de 11, 8, 10 personnes qui sont à sa charge. Et on s'est dit, tant que la situation de conflit et des guerres continue, il n'y a pas des opportunités de développement et d'épanouissement de la jeune fille. Nous devons tous nous unir pour que tous ensemble nous puissions combattre le conflit, la guerre, les cycles de violence dans nos régions et partout dans le monde pour nous assurer que la protection et l'épanouissement de la jeune fille aura une chance d'être vécue comme ces deux hommes, et que le monde de demain, qui est basé sur la protection de la femme et la fille, nous promettra d'être un monde meilleur pour tous.
C'était Sarah Ntamboué à Goma en République démocratique du Congo. On écoute tout de suite Latif, c'est un auditeur de VOA, il est à Lomé au Togo.
Actuellement, sur toute l'étendue du territoire togolais, beaucoup de familles envoient leurs jeunes filles à l'école. Ceci est le fruit d'une intense campagne de sensibilisation entamée depuis un certain temps par l'État et aussi d'une prise de conscience au niveau des familles. De plus, la présence massive des femmes dans tous les secteurs d'activité et au gouvernement, dirigé d'ailleurs par une femme, est une source supplémentaire de motivation pour les parents des jeunes filles. Les filles, lorsqu'elles parviennent au bout de leurs études, ont beaucoup plus de facilité à trouver de l'emploi. Néanmoins, les obstacles sur le chemin de l'épanouissement de la jeune fille sont nombreux. On peut citer pêle-mêle les mariages précoces, les grossesses précoces, sans oublier la pauvreté qui contraint certaines apprenantes à faire le trottoir pour financer leurs études. L'État togolais doit appuyer les parents pour renforcer et consolider la dynamique que nous constatons actuellement. Et il va de l'intérêt du pays, car, comme on le dit, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et tant vaut la femme, tant vaut la nation.
Oumou, vous avez parlé tout à l'heure de sensibilisation dans votre travail dans le club des filles leaders de Guinée. Alors, quelles sont les techniques, on va dire, de communication qui fonctionnent bien, par exemple, pour éviter que les gens marient leurs filles quand elles sont mineures, du reste?
C'est assez compliqué. Nous, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes les victimes. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes en tant que victimes, nous portons nos propres voix. Donc, nous partons voir nos parrains, les communautés pour les raconter nos propres histoires. Aujourd'hui, nous racontons quelque chose que nous-mêmes nous avons vécu et forcément, et face à tant de violence, on ne pourrait pas être moins sensible. Donc, ce que nous faisons, nous rencontrons nos leaders communautaires et la stratégie est que avant d'aller dans une communauté, il faut toujours être accompagné par un leader de cette communauté-là qui est de ton côté. Parce que les représailles et parfois les rejets quant au message qu'on va véhiculer et ne sont pas au maître. Donc, on rencontre ce leader communautaire qui va nous introduire dans les communautés et avec la variété linguistique, nous nous rassurons de parler la langue de la communauté et nous partons véhiculer les messages où nous prenons des exemples pratiques, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les jeunes filles qui vivent dans cette communauté-là. Parfois, ça tombe dans de bonnes oreilles, d'autres fois, on n'a pas gain de cause, mais on reviendra sous une autre stratégie avec d'autres mots et avec d'autres.
Merci beaucoup, Mou. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Florine, donc, qui est au Cameroun, vous avez parlé tout à l'heure du leadership, de former les jeunes filles au futur leadership. Alors, comment est-ce que vous les approchez? Comment vous choisissez les profils? De quel âge ont-elles et quelles sont vos techniques, en somme?
Alors, principalement, ce que nous faisons, c'est atteindre des filles de tout âge, mais on axe principalement sur des adolescents parce que elles sont plus aptes à comprendre ce qu'on veut leur transmettre. On considère que, bon, ça sera plus facile justement de travailler avec elles. Du coup, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on a des descentes justement avec l'association Marinada, on les approche, on crée des petits séminaires où on prend le temps justement de les éduquer sur l'importance justement de changer notre façon de voir, d'avoir vraiment un changement de paradigme qui permet de voir en fait les choses d'une façon différente. Mais nous aimerions justement élargir un peu notre zone d'action parce que pour l'instant, nous n'avons atteint que des filles, par exemple, de l'extrême nord où nous faisons des descentes, mais nous aimerions justement que ça touche un peu plus de régions dans le Cameroun. Notamment, justement, cette année, nous avons l'intention de faire ce qu'on appelle un camp de leadership qui sera sur une durée au moins d'une semaine avec des profils justement assez variés, des principes de parrainage et beaucoup d'autres choses qui permettront justement à ces jeunes filles-là d'être dans un nouvel environnement qui leur permettrait de voir les choses vraiment différemment.
Merci beaucoup, Florine. On va se rendre à présent en République centrafricaine pour écouter le docteur Antoinette Montaigne qui est juriste, experte en droit des enfants.
Beijing a lancé une véritable dynamique mondiale pro-femme et cette dynamique a nécessairement transformé les mentalités, a contribué à changer beaucoup de choses, notamment à faire évoluer les législations nationales sur la promotion de la femme, l'égalité des chances et l'égalité des droits, l'égalité dans la participation au travail, dans la politique, dans l'économie. Donc, la jeune femme a, grâce à Beijing aussi, cette impulsion mondiale, a trouvé sa place dans beaucoup de domaines. Seulement, il reste l'effectivité et la systématisation. L'effectivité, c'est le fait que les politiques publiques qui ont été adoptées au niveau national n'ont pas forcément été mises en œuvre dans les politiques publiques locales, avec des acteurs bien identifiés où les femmes peuvent avoir une systématisation de l'accueil et des droits qui pourront leur être bénéfiques, notamment au niveau du droit à l'éducation. Quand dans les villages reculés, il n'y a pas d'école, donc le droit à l'éducation est de facto pas du tout réalisable. Et ce droit à l'éducation qui n'est pas réalisable ne permet pas à la jeune femme en devenir de pouvoir se former et de trouver sa place dans la société demain.
C'était le docteur Antoinette Montaigne. On revient avec elle. Cette fois-ci, elle nous parle de la pesanteur culturelle.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
À l'échelle des familles et des communautés de base, il y a encore cette pesanteur culturelle qui considère le rôle de la jeune fille comme un rôle sous contrôle par rapport au garçon. Et ce rôle sous contrôle ne lui permet pas toujours de prendre des initiatives. Elle est inhibée, elle doit faire plaisir à la communauté, se comporter comme la communauté attend d'elle. Ça, ce sont des freins qu'il convient de lever. Mais au niveau des collectivités locales, comme ailleurs dans les pays développés, il n'y a pas une vraie définition de ces politiques avec des lignes budgétaires. Quand il y a une politique qui n'est pas financée, c'est difficile de pouvoir bénéficier des moyens et des ressources pour mettre en œuvre tous les droits auxquels la jeune fille peut prétendre. Je ne pense pas que les droits aujourd'hui acquis pourront reculer, mais c'est plutôt la mise en œuvre et les moyens, les ressources qu'il faut mettre en place et les acteurs qu'il faut former parce que ce sont des problèmes complexes, tenaces. Il faut des spécialistes, il faut des experts, mais il faut aussi des actions de terrain pour que chaque jeune fille puisse savoir où se retourner et obtenir des droits concrets pour l'éducation, pour la santé et également pour l'épanouissement, sachant que l'épanouissement vient vraiment souvent derrière parce que les tâches ménagères prennent beaucoup de temps aux jeunes filles en dehors de l'école lorsque les jeunes filles ont la possibilité d'être scolarisées.
Voilà, c'était Antoinette Montaigne, juriste et experte en droit de l'enfance en République centrafricaine, Oumou Kairi Diallo, au niveau de la vision de l'avenir des filles, hein, puisque c'est le thème finalement de la Journée internationale des filles. Et quelle est cette vision des filles d'une manière générale? Vous avez des très petites, 10 ans, c'est vraiment très jeune. Que veulent-elles en général? Comment se voient-elles plus tard? Dans quelle situation? Dans quel travail? Dans quelle vie familiale ou sociale, d'une manière générale? Je peux vous poser la question à vous-même également, vous-même. Comment voyez-vous l'avenir pour une fille?
Merci beaucoup. La thématique de cette année, elle est assez puissante. Moi, j'ai interrogé quelques filles hier. Je leur ai demandé, je leur ai posé la question « Que veux-tu devenir plus tard ?» Et moi, j'ai eu des réponses du genre « Je veux être avocate, je veux être journaliste, je veux être douanière. » Et la dernière réponse que j'ai eue, c'est que je veux être présidente de la République. Mmh. Et aujourd'hui, et ces réponses nous prouvent à suffisance que les jeunes filles ont de grands rêves et qu'ils ont une vision large de l'avenir et que nous, la société et la communauté, devons travailler sur l'environnement dans lequel elles pourront mettre en place ces rêves-là. Aujourd'hui, nous devons contribuer à leur offrir un environnement sûr et sécurisé, leur permettant de développer leur plein potentiel. Et depuis très longtemps dans nos communautés, et que ce soit l'éducation de base que nous recevons, ces jeunes filles-là sont réduites au second rang. Il est temps qu'on leur dise qu'on a confiance en elles et que ce dont elles rêvent est bel et bien possible et qu'elles ont la possibilité de le réaliser. Et donc pour toutes ces filles qui voudront être présidentes, avocates ou demain, que moi j'ai écouté avant-hier, je continuerai à me battre pour que l'environnement dans lequel elles sont soit assez propice pour qu'elles soient présidentes de la République.
Absolument. Et on espère que vous avez bien noté le nom de la jeune fille hein, pour vérifier cela dans l'avenir, Oumou. Merci beaucoup. Florine, pareil de votre côté au Cameroun. Les jeunes filles, les petites filles, qu'est-ce qu'elles veulent dans l'avenir pour elles? Où est-ce qu'elles se voient dans l'avenir?
Malheureusement, de notre côté, c'est pas aussi beau que ça. C'est vrai, on peut s'axer sur les métiers et tout, mais ce que je remarque, c'est que la plupart des jeunes filles ici ne se voient pas rêver grand. Elles se disent, bon, je vais trouver un petit métier et puis peut-être je vais me marier et puis c'est tout. Par contre, ce que moi, je pense qu'il devrait être, c'est justement un avenir. Ce que je rêve, justement, c'est un avenir où on n'a pas besoin justement d'être féministe, parce que je me dis, les jeunes filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Du coup, si en grandissant, elles savent que bon, je suis une femme accomplie, je suis une femme qui peut tout accomplir, qui peut atteindre n'importe quel objectif, justement, la raison pour laquelle on veut qu'elles soient des leaders, c'est pour qu'elles se disent que c'est pas parce que je suis une fille que je ne suis qu'une fille. Parce qu'il y a encore des parents aujourd'hui qui disent à leur fille, tu n'es qu'une fille, tu ne dois pas être trop intelligente, tu ne dois pas être trop ambitieuse, sinon tu ne te marieras pas. Du coup, les filles, elles se disent, bon, il faut que je me marie, que je reste tranquille, parce qu'on dira que si je suis trop ambitieuse, c'est que je ne suis pas soumise. Pourtant, c'est pas la culture qu'on veut leur enseigner. On veut, en fait, qu'elles changent totalement de façon de voir, pour que d'ici quelques années, ce soit une norme, justement, d'avoir les mêmes droits que X ou Y autre personne.
Merci
Donc,
beaucoup.
Notre vision, c'est...
Oui, votre vision, rapidement.
Notre vision, c'est vraiment pousser la femme à être complète, totale et totalement accomplie.
Merci beaucoup, Florine. Écoutons à présent une dame que vous connaissez très bien, c'est Jacqueline Feinting. Elle est donc camerounaise et militante des droits humains comme vous.
Je peux dire qu'au niveau du Cameroun, par exemple, beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de filles vont à l'école, mais beaucoup de filles aussi ne vont pas à l'école. Concernant les régions reculées, vraiment, il y a encore beaucoup à faire. Parce que les parents, dans ces zones, pensent encore que la fille est faite pour aller en mariage. C'est elle qui doit faire les travaux ménagers, c'est elle qui doit faire ceci, c'est elle qui doit faire cela. Elle est là comme la vache à lait, c'est-à-dire que celle qui va servir à éduquer le garçon. Parce que la dot qu'on va donner par rapport à cette fille, c'est ça qu'on va donner pour que le garçon aille à l'école. Parce que demain, c'est dans la famille que le garçon va revenir, alors que la fille va partir en mariage ailleurs. Bon, je pense aussi que c'est l'ignorance, hein. C'est l'ignorance, c'est pour ça que mon association s'attelle à sensibiliser les parents. Nous nous prenons pour exemple pour ces parents-là et nos parents aussi témoignent de ce que la fille est au même pied d'égalité que les garçons, parce que ce que les filles font aujourd'hui dépasse même ce que les garçons font pour leur famille. On prêche par la parole et d'ici quelques années, elles vont inculquer ça à leurs enfants et ainsi de suite. Je crois qu'à un moment donné, les droits de la fille seront bel et bien respectés parce qu'elles vont s'imposer, moi je le dis. Il faut seulement que nous outillions nos filles et il faut que les mamans africaines apprennent à se départir de la culture que nous avons reçue. C'est vrai, nous avons reçu cette culture. J'ai 4 filles, 3 garçons, mais il n'y a pas de différence entre mes filles et les garçons. C'est-à-dire que les études que je paye pour les garçons, je les paye pour les filles. En dehors des spécificités des filles, où moi je donne même plus de poids, il y a des choses que je ne fais pas pour les garçons.
C'était Jacqueline Feinting au Cameroun. On se rend à présent en Guinée, hein, le pays d'Oumou Kairi Diallo, pour écouter la syndicaliste Asmaou Ba Doucouré.
Depuis la déclaration de Beijing en 1995, d'importants progrès ont été réalisés pour les droits des filles. De nombreux pays ont mis en place des lois favorisant leur accès à l'éducation et la lutte contre les mariages forcés. Si je prends mon pays, la Guinée, il y a toutes les lois qui protègent les filles. Malheureusement, l'applicabilité fait défaut. Cependant, beaucoup de filles continuent à faire face à des inégalités, notamment dans les zones rurales qui sont en situation de pauvreté. Les défis restent nombreux. L'accès à l'éducation, la violence et les mariages précoces persistent. Pour protéger les acquis, il est crucial de renforcer les lois, d'investir dans l'éducation et de sensibiliser les communautés pour assurer un avenir meilleur aux filles du monde entier.
C'était Asmaou Ba Doucouré en Guinée. On retourne en République démocratique du Congo pour écouter Jeannette Boleka à Kananga, dans le centre de la RDC. C'est une auditrice de VOA Afrique.
Constatant que l'état des filles s'est amélioré dans certains domaines importants de la vie, comme l'éducation, la santé, le développement, et pour que les droits des filles soient respectés, comme on a toujours dit, le respect bien ordonné commence par soi-même. Donc les jeunes filles doivent prendre les choses ou leur vie au sérieux, car sans l'éducation, elles ne seront pas autonomes et utiles dans la société. Et aussi, elles doivent préserver leur santé de tout ce qui peut la nuire. Sans la bonne santé, il sera impossible de bien travailler et étudier et de tout faire.
Un autre commentaire à présent, celui de Aïda Walaté, les présidentes de Justice et Dignité pour les femmes du Sahel.
Depuis la déclaration de Beijing en 1995, nous avons observé des progrès notables pour les droits des filles, notamment une augmentation du taux de scolarisation. Cependant, ces avancées restent fragiles, surtout dans les zones de conflit où les obstacles tels que le mariage précoce et la fermeture d'école sont omniprésents. Les défis sont énormes. La violence, les déplacements forcés et l'absence de services de santé adéquats menacent leur sécurité et leur épanouissement. Pour éviter une remise en question de ces acquis, nous devons renforcer les mécanismes de protection juridique et sensibiliser les communautés à l'importance des droits des jeunes filles. Mobiliser les jeunes filles est crucial. En les éduquant sur leurs droits, nous cultivons une génération de leaders qui saura défendre ces acquis.
Et avant de reprendre les questions avec nos deux invités, on retourne en République démocratique du Congo pour écouter l'architecte Caroline Pindi à Kinshasa.
La jeune fille d'aujourd'hui est la femme adulte de demain. Donc, pour que nous puissions avoir des femmes qui ont confiance en elles, des femmes qui sont épanouies, des femmes qui seront plus tard capables de pouvoir assumer des postes de direction, nous devons le préparer maintenant. Moi, j'aimerais qu'on mette un accent particulier sur l'éducation, encore une fois. Il y a dépravation des mœurs, mais avec de la volonté politique surtout, et la volonté des parents. Nous pouvons arriver à bouger les lignes. Au-delà de ça, il y a également la protection de la jeune fille qui entre en compte. À l'est du pays, vous savez, chez nous, il y a une guerre qui dure depuis des années. Et les jeunes filles qui sont violées, il faut mettre en place des politiques de protection de ces jeunes filles-là. Et j'aimerais enfin mettre un point d'honneur sur le mentorat. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes qui sont arrivées au sommet puissent prendre sous leurs ailes les jeunes filles pour les encadrer afin qu'elles puissent être compétitives plus tard.
Oumou Kairi Diallo, vous avez parlé tout à l'heure d'une jeune fille qui veut être présidente. Alors, est-ce que ces filles, finalement, vous les invitez à mettre un pied dans la politique? Parce qu'on a bien compris que toutes ces questions de droit, ce sont des questions politiques avant tout. Et par exemple, on a des parlements qui votent les lois. Donc, cela veut dire que la jeune fille doit s'y mettre également.
Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est un grand défi pour nous, les jeunes filles et les jeunes femmes, et toutes les sphères politiques et guinéennes sont marquées par des figures masculines. Aujourd'hui, et pour mieux impacter, renforcer les politiques en notre faveur, il faut que nous soyons parmi les décideurs. Et je pense que ça, c'est une conséquence d'une éducation de base, d'une culture sociale, où la fille, on l'a toujours appris à être derrière l'homme, à être assujettie à l'homme. Et c'est assez compliqué. Elle-même, dans sa réflexion, elle se dit que je ne suis pas capable. Même si j'ai des compétences à prouver, il faut que je sois sous l'ombre d'un homme. C'est lui qui saura mieux porter la chose. Et donc, nous, on se bat sur les questions de leadership, comme mon homologue du Cameroun, pour pouvoir redonner cette confiance à ces filles-là. C'est pour cela que nous avons des causeries éducatives que nous animons dans nos locaux où nous invitons non seulement nos membres, mais aussi des filles du lycée, du collège, mais même des filles qui sont dans l'informel aujourd'hui, des salons de coiffure et les ateliers de couture. C'est de leur redonner cette confiance en soi et ce dans quoi elles sont bien, les accompagner et suivre cela pour leur permettre après d'être dans des sphères encore plus avancées. En ce qui concerne les milieux politiques, aujourd'hui, il y a ce dynamisme en Guinée où des femmes se mettent en coalition pour pouvoir intégrer les partis politiques et au-delà en être des leaders. Et je pense que les futures générations seront mieux réclamées et imposer leur place dans ces sphères politiques pour que cette fille qui m'a parlé hier...
Absolument. Florine, pour terminer très rapidement, vous également au niveau de la politique, est-ce que vous les invitez à mettre donc un pied dans la chose politique très rapidement?
Bon, je le dis, c'est un peu plus compliqué, mais si avec l'aide justement de nos mères, de nos femmes, de toutes ces femmes-là justement qui ont déjà fait leur preuve dans ces domaines-là, qu'on ait un accompagnement réel, je me dis forcément pour donner le change, mettre notre main à la pâte pour que justement le changement soit accéléré, pour qu'il y ait une réelle amélioration. Du coup, je me dis qu'une fille se sent capable de mettre justement la casquette de la politicienne, qu'elle se sente à l'aise justement, qu'elle se donne la possibilité d'y arriver et forcément ça aura du bon.
Merci beaucoup Florine Djorio-Dakongé. Je rappelle que vous êtes chef du département des droits des enfants et des filles de l'association Marnangada au Cameroun. On avait également Oumou Kairi Diallo qui est directrice du club des filles leaders de Guinée. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Je vous mettrai en contact toutes les deux. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée et bon courage à toutes et à tous.